Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bienvenue au Festival international du dessin de presse, Cartooning for Peace.
Le visuel.
Dessinatrice de presse.
Caricaturista.
Faire des dessins.
C'est une expression comme une autre, hein, le dessin.
Mes dessins.
Et par l'intermédiaire du dessin.
Le dessin.
Véhiculer un petit peu les idées des dessinateurs.
Les dessins.
Bonsoir à toutes et à tous. L'Univox de cette semaine sera consacré au dessin de presse. Nous allons tenter de répondre à la question « Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?» Je vous arrête de suite, si vous prenez votre ordi, vous allez avoir la réponse suivante. Miss Internet, s'il te plaît.
Un dessinateur de presse est un artiste qui crée des dessins humoristiques pour un ou plusieurs périodiques. Ces dessins, en plus d'humoristiques, sont souvent satiriques, invitant à la réflexion ou à la critique politique ou sociale.
Pour certains, c'est surtout...
Ah, c'est le meilleur boulot au monde.
Ok. Bon, j'imagine que pour vous, comme pour nous, ça ne suffit pas comme explication. Le festival international Très Libre, organisé par Cartooning for Peace, exposait les 5 et 6 avril des dessins de presse sur le thème « Les femmes ». Exposition que l'on peut visiter dans le centre culturel de Montpellier, Pierre Vive. Le sujet n'a pas été choisi au hasard, écoutez plutôt ce qu'en dit Plantu.
Le sujet des femmes dont on pourrait dire « Oh, voilà, tout dit sur les femmes », eh ben en fait, non. Parce que finalement, on se rend compte qu'à quel point on arrive à dire des choses avec une image.
Mais il n'a pas organisé ça tout seul. C'est l'association Cartooning for Peace qu'il a fondée avec Kofi Annan qui a fait le gros du travail.
Cartooning for Peace a été créé en 2008. C'est une association française qui est basée à Paris. C'est un réseau de dessinateurs de presse qui s'engagent via le dessin de presse, via leur action, pour la paix, pour les droits de l'homme, pour la liberté d'expression, etc. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les dessins des dessinateurs qui veulent bien nous céder, les droits qu'ils veulent bien nous céder, et on organise des rencontres donc avec le public jeune, et des expositions un peu partout dans le monde sur ces grands thèmes de société, la liberté d'expression et les droits de l'homme.
Vous allez entendre quelques-uns, mais aussi quelques-unes, des 18 dessinateurs présents. On commence donc, honneur aux femmes, avec...
Raima, caricaturista venezolana.
Donc je suis vénézuélienne, je vis à Caracas et je suis correspondante pour l'Universal, caricaturiste, en fait dessinatrice de presse pour le El Universal.
Qu'est-ce qui vous a amené au dessin ?
Bueno, llegué...
Donc elle a commencé à faire du dessin très jeune et ensuite elle a fait une école de journalisme et donc c'est après qu'est venu donc d'intégrer le journalisme et le dessin pour travailler maintenant sa caricature.
En mi trabajo diario en el periódico venezolano.
Alors comment on dessine la situation actuelle du Venezuela par exemple?
Se dibuja muy compleja. La situation politique.
Donc, c'est une situation très compliquée, très complexe, avec beaucoup de violence. Et donc, c'est très, très compliqué de dessiner tout ça. Et donc, il faut le faire avec beaucoup d'humour et souvent de l'humour noir.
Que non seulement le futur se dibuja con colores oscuros, sino con mucho humor negro.
Et qu'est-ce que ça vous inspire le thème du festival de cette année, les femmes?
Bueno, es un tema fascinante. Es un tema que creo que nos compete en el sentido.
Bon, c'est un thème très, très, très important, donc c'est très bien parce que c'est, la femme assume de plus en plus de responsabilités. Il y a des femmes qui sont devenues présidentes, quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Et, bon, et ensuite, il y a le côté la sexualité, la féminité, et donc ça aussi c'est un autre aspect important du thème de l'exposition.
À lo que somos y mucho menos à... à las diferencias con los otros.
Les dessinateurs présents venaient des quatre coins du monde. Danemark, Venezuela, Belgique, États-Unis, Iran, Israël, Portugal et Australie.
Cathy Wilcox, je suis dessinatrice de presse à Sydney, Australie, pour le Sydney Morning Herald et le Melbourne Age. Et voilà, je travaille là-dedans depuis 24 ans. en faisant des dessins quotidiens qui accompagnant des articles dans les actualités, et aussi faire des grands dessins de rédaction, éditorialisant sur la politique de la semaine.
Qu'est-ce que c'est être dessinateur de presse en Australie ?
Ah, c'est le meilleur boulot au monde. c'est un rythme de vie qui me convient très bien. Je peux passivement grignoter sur les actualités en cours de la matinée, et je peux travailler de chez moi ou bien aller au bureau si j'ai besoin de voir du monde, et travailler l'après-midi sur les histoires qui se réalisent à ce temps-là. Les deadlines se rétrécissent de plus en plus, donc mon travail va pas trop tard le soir maintenant, avec des changements dans le rythme de la presse, et j'ai plus ou moins la liberté totale de dire ce que j'ai envie de dire dans mes dessins.
Qu'est-ce que vous pensez du thème de cette année, les femmes ?
Je suis intéressée de voir, parce que je suis normalement, je fais très attention de ne pas être mise dans un camp particulier, de faire partie d'une marque de féminisme ou d'idéologie particulière. C'est pareil politiquement, je ne veux pas qu'on me mette dans une boîte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceci est fait et rédigé avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'ouverture d'esprit. Et là, je vois qu'ils sont très, très prêtes à discuter cette relevance. Ils nous ont pas invités pour ressembler à une idée fixe qu'ils avaient dès le début. Ils veulent vraiment ouvrir les dialogues, le débat sur plein de choses. Et je trouve ça plutôt utile et ça m'intéresse. Mais participer dans des expositions où on dit, par exemple, on voudrait montrer des dessins de femmes pour prouver que les femmes peuvent-elles aussi être drôles dans les dessins. Là, je refuse de participer parce que je pense que je n'ai rien à prouver, rien à... je ne pense pas que je fais partie d'une minorité de la société, et je ne veux pas agir en tant qu'une minorité. Je suis produit de ma vie et tout ce qui me fait, et tout ce que, mais les dessins que je fais, c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que je suis la personne que je suis. Voilà.
Il y avait aussi des dessinateurs de presse français, dont un qui a élu domicile à Montpellier. En plus d'être bien sympa, il a accepté de nous faire un petit dessin intitulé « La radio, c'est le seul média qu'on peut suivre sans s'arrêter de dessiner ».
Je suis Aurel, je suis dessinateur de presse, je travaille au journal Le Monde, à Politis et sur le site Yahoo Actualité.
C'est quoi être dessinateur de presse en France ?
Être dessinateur de presse en France, c'est comme un peu partout dans le monde, avec peut-être un peu plus de liberté qu'à certains autres endroits. C'est faire des dessins pour la presse, essentiellement la presse, les journaux imprimés sur papier jusqu'à il n'y a pas longtemps, et depuis quelques temps aussi sur Internet, sachant que la télé ne diffuse que très très rarement et très très peu de dessins.
Qu'est-ce que c'est qui vous a amené au dessin de presse ?
Au dessin de presse, c'est la passion à la fois pour le dessin et à la fois pour l'actualité et la politique qui m'ont amené à ça.
Et comment on devient dessinateur de presse ? Il y a une formation pour ça ?
Il n'y a aucune formation, on le devient parce qu'on en a envie et qu'on a décidé qu'on ferait ça. Il n'y a pas de formation, et j'espère qu'il n'y en aura jamais, parce que je pense que la richesse qu'il y a dans ce métier-là, on est très peu nombreux, on est moins de 50 en France, je pense. Et la richesse qu'il y a dans ce métier vient du fait que tout le monde a un parcours différent et qu'il n'y a pas d'école formateur qui puisse formater, il n'y a pas de cadre, on est tous différents, on a vraiment des parcours très différents.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre travail avec le monde diplomatique ?
Alors avec le monde diplomatique, que je n'ai pas cité parce que c'est pas quelque chose de très régulier et de permanent, mais c'est régulier mais c'est pas permanent. Je fais du dessin de reportage, c'est-à-dire que ça reste du dessin de presse, ça reste un travail journalistique comme le dessin de presse qu'on a l'habitude de voir, éditorial ou tout ça, qui parle de l'actualité chaude. Là, c'est du dessin sur une un peu plus longue période, qui traite d'un sujet un peu plus large et moins d'actualité. Et donc le dessin de reportage, c'est comme un reportage photo ou un reportage avec une caméra, mais voilà, je le fais avec un crayon et un carnet. Et c'est pas que du dessin, c'est pas que du carnet de voyage, c'est aussi apporter une information, enquêter. Donc il y a du texte aussi. Pour le monde diplomatique, je fais ça avec un journaliste rédacteur, mais ça m'arrive aussi de le faire tout seul et de faire à la fois le texte et l'image. Voilà, c'est un des pans du travail de dessinateur de presse, de faire du reportage, donc d'être dans le journalisme pur.
Qu'est-ce que ça vous a inspiré, le thème de cette année, les femmes ?
Ça m'a inspiré tout d'abord une crainte, non pas ni du sujet ni des femmes en elles-mêmes, mais une crainte d'être trop consensuel. C'est-à-dire que je craignais que tous les dessins aient dans le même sens, parce que tout le monde allait grosso modo avoir le même avis sur le sujet. Et que ça manque un peu de piquant et tout ça. Mais je pense que quand je vois l'expo que je découvre aujourd'hui, les commissaires d'expo et ceux qui ont choisi les dessins s'en sont vraiment bien sortis, parce que en effet, il n'y a personne pour dire que c'est bien de taper sur les femmes et que c'est bien de les asservir et de les esclavager. On pouvait s'y attendre, et tant mieux qu'il n'y ait pas de ce genre de discours. Mais il y a quand même une grande diversité à la fois graphique et des façons d'aborder les problèmes, et parfois aussi des façons grinçantes d'aborder certains problèmes. Et c'est bien parce que tout ne va pas dans le même sens, c'est pas consensuel.
Univox.
Incontestablement, la star du festival, c'était Plantu. On retrouve presque tous les jours ses œuvres en une du monde. Il a répondu pour Radio Campus à quelques questions.
Est-ce que vous pouvez juste nous dire un peu l'idée qu'il y a derrière cette exposition très libre ?
Alors, on y réunit des dessinateurs du monde entier, des dessinateurs aussi de Montpellier, et on essaye de faire vibrer dans ce lieu qui s'appelle Pierre-Vive, dans l'ouest de Montpellier, de faire vibrer les gens qui vont venir ici à Pierre-Vive sur un sujet que nous proposons. Il y a 2 ans, on avait fait une exposition consacrée à l'eau. Là, cette fois-ci, c'est une exposition consacrée à la femme. Et je trouve que c'est génial de pouvoir donner des images, à commenter, à créer des débats, à susciter des réflexions et des opinions sur tel ou tel sujet, parce que, justement, le sujet des femmes, dont on pourrait dire « Oh, voilà, tout dit sur les femmes », eh bien, en fait, non. Parce que, finalement, on se rend compte qu'à quel point on arrive à dire des choses avec une image.
Et justement, sur le thème de la femme, qu'est-ce que ça vous a inspiré à vous ?
Alors, moi, j'ai laissé faire mon équipe, parce que c'est elle qui, avec tous les dessinateurs du Cartooning for Peace, ont réalisé l'exposition. Et puis, il se trouve que dedans, moi, je suis la dernière roue du carrosse pour ça, parce que je suis là pour mettre en valeur le dessin des autres dessinateurs et surtout dessinatrices. Et moi, du coup, je découvre, par exemple, que j'ai 2 dessins qui sont juste à côté et un dessin animé que j'ai découvert qui a été fait par une école de Montpellier. Voilà. Et donc, du coup, et alors, elles travaillent tellement, les filles, en fait, elles auraient dû me le montrer à Paris et je l'ai découvert ici à Montpellier.
Ça vous est déjà arrivé de subir une certaine censure de la part de la direction du monde ?
Alors, des dessins refusés. Ça existe régulièrement, hein, c'est pas un problème. Parce qu'on peut ne pas très bien avoir la science infuse, on pense que tel dessin est compréhensible, que tout le monde va. Non, il y a des dessins, c'est pas grave s'ils sont retoqués, c'est pas très grave. Pourvu qu'au bout du compte, le dessinateur ou la dessinatrice soit vraiment en osmose avec son propre journal. S'il y a une osmose, on peut se chamailler, comme dans une famille, dans un couple, on peut ne pas être d'accord, c'est pas grave. Donc ça, c'est pas grave. Les dessins refusés, c'est pas un problème. Les dessins censurés, moi, je connais pas.
Je vais vous demander si vous pensez qu'à l'heure actuelle, à l'heure des multimédias, des médias qu'on trouve sur Internet, à la télé, autant à la presse écrite qu'à la radio, si le dessin de presse, il est en danger ou si c'est plutôt quelque chose qui est plutôt exponentiel ?
Oh, ben c'est une expression comme une autre, hein, le dessin. C'est quand on s'exprime, quand on a des opinions. Alors on peut les exprimer par la parole, on peut les exprimer par l'écriture. Quand on voyait des enfants, par exemple, qui ont 4-5 ans, ou 10 ans qui dessinent, on ne se pose pas la question de savoir « Ah oui, mais il s'exprime là à 10 ans par le dessin, mais quand il en aura 20, il aura arrêté. » C'est une expression tellement naturelle. Alors évidemment, s'il y a des profs ou des parents qui leur disent « À 12 ans, bon, arrête le dessin. » parce que c'est plus important de faire de l'informatique ou de faire des maths ou de faire de la géographie. C'est comme pour les langues. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens ne sachent pas une langue couramment ou ne sachent pas danser parce qu'on ne l'enseigne pas, parce qu'on ne savent pas dessiner parce qu'on ne l'enseigne plus.
Comment vous définiriez le rôle du dessin de presse ?
Quand vous voyez une image, un dessin, quand vous regardez, vous savez que vous allez être devant une image qui va vous interpeller sur un fait politique ou sur seulement une pédagogie en caricature, par exemple sur la santé, sur la justice. Et finalement, c'est une image que vous regardez sans vous poser la question, parce que c'est d'instinct, vous allez tourner vers votre image. Et si en plus vous êtes devant une image qui est dans un journal politique et que vous-même vous êtes intéressé par la vie politique, ça s'appelle s'intéresser tout simplement au dessin de presse.
Qu'est-ce que c'est pour vous la différence majeure entre une photographie et un dessin ? Quelle est la différence entre le rôle d'un dessin et le rôle d'une photo pour vous ? Il y en a une ?
Il y a beaucoup d'utilisation des images dans les journaux et qui font que on regarde une image d'un dessin politique, on sait qu'on va y trouver une opinion exprimée qui va décoiffer et qui est complètement subjective, et en tout cas le côté subjectif, pétaradant, dérangeant et complètement assumé. Alors que quand on regarde une image d'une photo, on peut être amené à penser qu'on est à face d'une vision objective de la vie politique. C'est-à-dire l'article est censé être objectif, et on s'aperçoit des fois qu'il ne l'est pas. La photo, elle est censée être objective, et en fait, on s'aperçoit qu'elle ne l'est pas. Et à côté, vous avez des dessins qui, eux, affirment tout simplement qu'ils sont totalement subjectifs, et là-dessus, on n'est pas déçu.
Moyen d'expression totalement subjectif, le dessin de presse doit être un outil difficile à gérer pour les rédactions. D'autant que quand Plantu nous explique ses esquisses, on se rend compte que des sens cachés sont à dénicher dans tous les éléments de ses illustrations. Voilà donc comment ça se passe dans l'arrière-boutique de la rédaction du Monde, où on retrouve aux commandes...
Aris Papatodorou, je suis directeur artistique au Monde, donc je m'occupe pour le quotidien et ses suppléments de tout ce qui est le visuel, la photo, l'illustration, la mise en page. Disons que j'ai aussi le rôle de faire l'intermédiaire avec la rédaction, avec le reste de la rédaction, puisqu'on en fait partie.
Et alors, qu'est-ce qui vous fait décider d'un jour à l'autre, par exemple, qu'il y aura un dessin ou pas, une photo ou pas, de telle taille ou plus ou moins petite, en première page, par exemple ?
Alors, la première page, c'est un cas particulier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de liberté, parce que la une d'un quotidien doit correspondre à des choix qui sont un peu plus compliqués, qui sont des choix de présentation, de qu'est-ce qu'il y a dans le journal ce jour-là. Évidemment, ce qui va primer dans la construction d'une une, c'est l'actualité forte, si déjà s'il y a actualité forte ce jour-là, et l'actualité forte du jour. Et puis après, il y a des rendez-vous sur la une. Il y a le dessin de Plantu, il y a l'éditorial, il y a l'annonce des suppléments, si suppléments il y a. Donc c'est un espace de contrainte. Par contre, à l'intérieur, dans les pages intérieures, le critère, c'est toujours, d'abord, le visuel, sa taille, elle va être en fonction de l'importance du sujet. Donc l'importance du sujet va donner une longueur de papier, un espace accordé à l'image, etc. Et puis, sur le choix du type d'image, c'est qu'est-ce que l'image, la question essentielle, c'est qu'est-ce que l'image va apporter. C'est-à-dire que l'image, ce n'est en règle générale pas un bouche-trou, en tout cas ça ne doit pas l'être. Si c'est pour, si on parle d'un personnage et mettre juste un portrait de lui, un portrait qu'on n'a pas réalisé, qui n'est pas récent, qu'on n'a pas travaillé par exemple, Si c'est un personnage public, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, à ce moment-là, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. Si c'est un personnage dont on parle, dont on fait le portrait, on va regarder si on peut réaliser la photo, si on peut lui envoyer un photographe, ou si on peut trouver un bon photographe qui a déjà fait une image. Si c'est un événement, on va chercher évidemment une photo de l'événement et voir ce qu'elle apporte. Donc le choix du dessin ne se fait pas en négatif, c'est-à-dire que ce n'est pas quand on n'a pas de photo qu'on choisit un dessin, c'est quand on juge que le dessin est le mode le plus approprié pour illustrer le sujet, l'information en question. Soit la photo ne va, on n'a pas de photo effectivement intéressante, soit dès le départ on pense que la photo n'apportera rien, c'est pas le mode approprié d'illustration, et dans ce cas-là on va effectivement se pencher plutôt vers l'illustration.
Alors, on voit régulièrement dans les pages du Monde notamment des débats, des entretiens avec plusieurs intervenants et qui sont souvent illustrés par des petits portraits, des petits croquis d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix graphique ?
Alors là, c'est un cas très précis, c'est-à-dire c'est une page qui s'appelle Face à Face, peut-être qu'elle a changé de nom, mais c'est-à-dire qu'il s'agit de confronter deux personnes qui ont deux points de vue différents, voire opposés, sur un sujet. Ça fait partie de l'identité de la page, c'est-à-dire qu'on aurait pu évidemment, les personnes souvent se rencontrent physiquement, on les met ensemble, ils débattent. Un journaliste du quotidien assiste, retranscrit le débat, intervient, l'anime. On pourrait effectivement là décider soit de mettre que du texte par exemple, mais comme c'est des textes très longs, ça peut éventuellement être un peu hard, et soit de juste les photographier, de montrer, voilà, ils se sont rencontrés, ils se sont parlé. Sauf qu'on a considéré que là, d'une part, l'intervention de l'illustrateur donnait une patte à la page, hein, lui donnait un style qui différenciait d'autres pages débat, et d'autre part, l'illustrateur est beaucoup plus à même de saisir des attitudes, des gestes, des expressions, quand les gens se parlent, se confrontent et entendent ce que dit l'autre, que la photo, ou alors il aurait fallu filmer, chercher la capture d'écran. Et que même si, pour le coup, on est dans une situation où une photo ou un dessin montrerait strictement la même chose, puisque c'est pas du dessin à thèse, hein, on n'illustre pas le sujet, le dessin apporte là, pour le coup, saisit en tout cas quelque chose de plus intéressant pour le lecteur que ne l'aurait fait une photo de deux personnes.
À l'époque actuelle, notamment je pense à la Syrie, je pense à la Turquie, je pense à l'Ukraine, on est submergé d'images qui arrivent de professionnels, d'amateurs. Comment vous faites le tri dans une rédaction quand vous avez autant de choix quelque part ?
Alors, effectivement, il y a profusion d'images, mais toutes les images ne sont pas aptes à être utilisées par un journal. C'est-à-dire, d'abord, il y a une propriété intellectuelle sur l'image, donc on peut utiliser que des images qui sont disponibles à l'achat. Par ailleurs, sur les grands événements comme ça, un journal comme Le Monde va très probablement envoyer un photographe, ou en tout cas avoir un contrat avec un photographe local. Éventuellement, dans le cas de l'Ukraine, ça peut être un photographe ukrainien, mais on peut aussi envoyer un photographe. Et pourquoi ? Parce que on va, nous, avoir certains critères. C'est-à-dire que c'est un peu comme un illustrateur. On va discuter, le service photo, le responsable photo, les responsables de la séquence internationale, si on reste dans les exemples que vous avez donnés. Il va y avoir une discussion et on va évidemment, il va y avoir une espèce, là aussi, de commande, de dire, bien sûr, c'est suivre les événements, mais on aimerait bien avoir aussi, je ne sais pas, des scènes de la vie quotidienne, un portrait des responsables politiques de tel côté, etc. C'est-à-dire, on va de toute façon, d'une part, le choisir parce que son travail photographique convient, et d'autre part, formuler des demandes. Donc, il va envoyer ses images on choisira. Voilà, donc on se disperse pas, on a commandé un travail, on travaille en relation avec une personne, on reste dans cette logique-là. Après, sur les événements où on n'envoie pas de photographe, il y a quand même des étapes de vérification qui nous sont nécessaires. C'est-à-dire que nous, on ne regarde pas que le contenu de l'image, mais on veut savoir où elle a été prise, dans quelles circonstances, qui l'a prise, qui sont éventuellement les gens qui sont dessus, si c'est à l'intérieur, en tout cas pas forcément leur nom, mais est-ce que c'est des opposants au régime en place, ou est-ce que c'est des partisans du régime en place, etc. Donc de toute façon, on a pour ça des sources qui sont les agences photos, éventuellement des collectifs de photographes ou des photographes indépendants, qui sont des journalistes, donc photographes, et on va travailler plutôt avec ces sources-là. On ne cherchera d'autres sources que si ces sources-là s'avèrent ne pas suffire à fournir les images qu'on cherche. Et de toute façon, dans ces cas-là, il y aura des étapes de vérification nécessaires. C'est-à-dire qu'on aura la même exigence, que ce soit une grande agence ou petite, l'exigence qu'on peut avoir est la même.
Plusieurs classes de collèges et d'écoles de graphisme de la région Languedoc-Roussillon sont venues visiter, en avant-première, l'exposition. Et alors, selon eux, ça sert à quoi le dessin de presse ?
À quoi ça sert le dessin de presse ?
Ça sert à véhiculer un petit peu les idées des dessinateurs, ça sert à un peu dire en fait en toute liberté ce que plein de monde pense mais que ce que personne n'ose dire réellement.
Et après les gens qui regardent les dessins, ils ne voient pas forcément la même chose et donc, donc chacun a son opinion sur chaque dessin en fait.
Ouais, il y a les dessins, chaque personne peut l'interpréter à sa manière. Et en fait, les dessins, le rôle des dessins, en fait, c'est de faire passer un message avec un peu d'humour, histoire, pour en même temps alléger un peu les actualités et voilà, découvrir les pages.
C'est faire passer un message un peu tabou que personne n'ose aborder, donc je trouve que c'est vraiment bien parce que au moins ça dénonce ce qui n'a pas lieu d'être, que ce n'est pas normal que ça se passe comme ça.
Oui, on peut exprimer ce qu'on ne peut pas trop dire par écrit ou par la parole. Par les dessins, ça passe plus facilement.
Faire réfléchir les gens, voir des nouveaux points de vue un petit peu sur l'actualité, sur tout ça. Et... Bon, après, il faut être assez informé aussi sur l'actualité. Dès qu'on n'a pas forcément l'occasion de s'informer sur ça, ben, on peut être un petit peu à la masse. Mais sinon, c'est surtout pour voir d'autres points de vue et chaque fois relativiser les choses et peut-être dédramatiser certaines choses aussi.
Ouais, c'est pour dénoncer et dédramatiser certains faits qui arrivent dans les faits divers et qu'on pourrait comprendre de mauvaise manière, ou c'est une satire, quoi. C'est pour nous occuper et nous faire rendre compte en même temps de ce qui se passe réellement et pas les mensonges.
Je pense que c'est plus faire passer un message et par l'intermédiaire du dessin, toucher le plus de monde possible que par des textes où c'est plus facile à comprendre.
Le dessin de presse, c'est vraiment la forme la plus simple et la plus agréable pour les personnes de faire comprendre et de faire passer des messages. Donc c'est vraiment un intermédiaire utile, quelque part un peu ludique, mais justement la simplicité permet de montrer plus de gravité. Donc des messages plus durs peuvent être passés par ce biais.
Et pour vous, c'est quoi le dessin de presse ? Un joli gribouillis ou une illustration journalistique ? De manière générale, qu'on en use ou qu'on en abuse, le résultat est souvent le même. Le dessin, c'est attrayant et l'info passe, ce qui est le but. Malgré le boom du multimédia, et surtout de la photo, le dessin de presse a encore de beaux jours devant lui. Alors, la prochaine fois que vous en verrez un, regardez-le à deux fois. Tentez de comprendre tous les éléments des illustrations, photos comme dessins. Petit indice, tout est dans le détail et ce qui n'y est pas est dans la métaphore.
Ce reportage vous a été présenté par Dominique Lopez pour Radio Campus.